Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Le projet de métamorphose de la rive droite du Rhône est abandonné par Véronique Sarcelli. Accès refusé, deux députés de la France Insoumise et un élu italien se sont vus bloquer l'entrée du site du tunnel Lyon-Turin. Nouveau chapitre dans l'affaire des notes de frais de Laurent Wauquiez, au lac des Sapins à Cublize. La baignade dans le lac est suspendue. Notre invitée dans ce quart d'heure lyonnais, Axelle Dessin, directrice du Programme National d'Éducation au Numérique, Internet sans crainte. Attention, la ligne C du métro sera entièrement à l'arrêt du 3 au 16 août. Et puis le premier entraînement pour OL Lyon, ce sera le vendredi 31 juillet en public.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le projet de métamorphose de la rive droite du Rhône, 2,5 km, censé devenir un véritable corridor de fraîcheur végétalisée. Mais ce projet est officiellement abandonné. Une décision tranchée par la nouvelle présidente de la métropole, Véronique Sarcelli. Décision qui a fait immédiatement bondir le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Dans un communiqué cinglant, l'élu s'indigne d'un abandon d'un revers de main, dénonçant une inaction regrettable alors que la région connaît les pires pics de chaleur. Moins de voitures et 1200 arbres plantés, le projet promettait d'apporter de l'ombre au cœur de la presqu'île. Accès refusé, deux députés de la France Insoumise et un élu italien se sont vus bloquer l'entrée du site de Saint-Martin-de-la-Porte en Savoie. Leur objectif était d'inspecter le tunnelier Viviana, cette machine colossale de 3000 tonnes, avance à un rythme d'escargot, moins d'un mètre par jour contre les 12 mètres prévus. Les parlementaires dénoncent une opacité inquiétante. Pour eux, le projet vieux de 30 ans du Lyon-Turin est à l'arrêt et n'a plus aucune justification. Face aux critiques, la société publique Telt tempère. Pas de panne ni de blocage durable, mais une difficulté géologique ponctuelle et exigeante. L'entreprise assure respecter le travail des élus et leur propose un rendez-vous début septembre, le temps de valider les conditions de sécurité. Un retard de plus pour ce méga-projet ferroviaire, déjà repoussé à 2033, toujours au cœur d'une vive contestation politique et écologique. Nouveau chapitre dans l'affaire des notes de frais de Laurent Wauquiez. Après des mois de bataille judiciaire, la région Auvergne-Rhône-Alpes a dû transmettre à nos confrères de Mediacité les justificatifs de dépenses de l'ancien exécutif entre 2019 et 2021. Problème, selon le média lyonnais, une grande partie des documents reçus est totalement inexploitable. Si 25 000 euros de frais de déplacement sont clairement attribués à Laurent Wauquiez, des milliers d'euros de factures restent impossibles à tracer. Repas, taxis, trajets en train, les noms des bénéficiaires ont souvent disparu. Surtout, quasi aucun repas au restaurant n'est rattaché à l'ex-président de la région, alors que la Chambre régionale des comptes recensait pourtant plus de 35 000 euros de repas d'affaires sur cette période. Au lac des Sapins, à Cublize, il va falloir attendre avant d'immerger totalement son maillot. C'est le retour des cyanobactéries. Après un léger dépassement des seuils repérés par l'ARS, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien a dû suspendre la baignade dans le lac. Conséquence, interdiction de faire le grand plongeon jusqu'à jeudi prochain au minimum, en attendant les résultats de nouvelles analyses programmées lundi. Attention aussi à vos animaux de compagnie, ils sont très sensibles à ces bactéries. Ne les laissez surtout pas boire l'eau du lac. Seule bonne nouvelle pour les vacanciers, la piscine biologique, elle reste ouverte. Et pour faire passer la pilule, les tarifs du parking sont revus à la baisse avec l'application des prix basse saison.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Interdire les réseaux aux moins de 15 ans, restreindre les écrans dès le plus jeune âge, former les ados face aux dérives de l'intelligence artificielle. Alors que le débat sur la place publique chez nos jeunes n'a jamais été aussi brûlant, comment passe-t-on de la théorie à la pratique dans le quotidien des familles? Entre les risques de cyberharcèlement, la tentation de l'isolement et l'arrivée massive des outils d'IA dans les devoirs ou sur les smartphones, les parents se sentent souvent bien dépassés. Alors faut-il tout couper ou apprendre à faire avec? Et surtout, comment élever nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens numériques éclairés? Pour en parler, nous avons rencontré Axelle Dessin, directrice du Programme National d'Éducation au Numérique Internet sans crainte, rencontre lors des assises de l'EMI organisées par le Club de la Presse de Lyon.
Alors Internet sans crainte, c'est le programme national d'éducation numérique des jeunes et des familles. C'est un programme de la Commission européenne que l'on opère en France et notre objectif surtout, ça va être d'informer, de former et d'outiller d'abord les adultes qui sont à côté des jeunes pour leur permettre justement d'adresser les principaux enjeux d'éducation au numérique. Donc on essaie de couvrir tous les sujets, voilà, son identité numérique, le cyberharcèlement, l'IA, médias, la protection de ses données personnelles, et puis aussi l'éducation média à l'information, bien sûr.
Vous intervenez de quelle façon ? C'est dans les écoles, c'est où ?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des ressources gratuites sur notre site. On a plus de 200 ressources gratuites, de 3 ans jusqu'à 25 ans, pour que justement les enseignants, les médiateurs éducatifs au sens large, s'en saisissent. Toutes nos ressources sont accompagnées d'un guide pédagogique pour permettre en autonomie à des enseignants, à des animateurs de proposer des séances avec des groupes de jeunes.
Il y a deux grands thèmes, deux grands débats qui sont l'IA et les réseaux sociaux. Commencer par les réseaux sociaux qui sont les plus anciens. Qu'est-ce qu'il faut pour protéger nos enfants par rapport à ces réseaux ?
Ben nous, on est convaincus qu'il faut déjà leur apprendre à comprendre déjà quel est le modèle de ces réseaux. Qu'ils comprennent en fait que c'est des modèles qui sont conçus pour capter leur attention. Parce qu'en sachant ça, ben on est attentif à tout ce qui est utilisé par ces réseaux pour nous capter, le scroll infini, les notifications, les récompenses. Et ça nous donne aussi la capacité d'agir pour pouvoir après les utiliser à bon escient.
La solution, donc, c'est pas forcément avoir une liste noire des réseaux ?
Aujourd'hui, c'est difficile de définir ce qui serait un bon ou un mauvais réseau social. Idéalement, un bon réseau social, c'est un réseau dans lequel on pourrait choisir exactement ce qu'on peut regarder, avec pas les contenus qui nous sont suggérés, ou en tout cas, on pourrait décider exactement du fil, de notre fil d'actualité. Et puis, je crois qu'un bon réseau social, pour des jeunes, ce serait un réseau social qui considérait vraiment que ce sont des jeunes, avec une expérience utilisateur adaptée, qui leur explique aussi ce qui est fait de leurs données, qui leur explique ce qu'on appelle les CGU, les conditions d'utilisation, et qui peut-être les guide beaucoup plus vers du paramétrage. Aujourd'hui, on communique pas assez sur le paramétrage qui permet quand même d'avoir un peu le contrôle de ce qu'on fait en ligne et avec qui on interagit.
Est-ce qu'il faut vraiment les interdire à partir de en dessous de 15 ans ?
En fait, si on parle d'interdiction aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même urgence à protéger les jeunes d'un certain modèle de réseau social qui est le modèle dominant. Aujourd'hui, les réseaux les plus utilisés, TikTok, Instagram, etc., sont des modèles conçus pour capter l'attention sans forcément se soucier du bien-être. Et c'est ce qui fait que parfois, des jeunes vont se retrouver enfermés dans un certain contenu qui n'est pas forcément positif pour eux. Et on a vu qu'ils peuvent amener certains au suicide. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, malheureusement, ne les préservent pas de ça. Donc, les exposent à de la désinformation, à des contenus qui peuvent être inadaptés, choquants, parce que ça génère du clic, du buzz, de l'interaction qui sert à leur modèle, mais qui ne sert pas forcément au bien-être des jeunes et qui est essentiel à protéger aujourd'hui.
Légalement, l'intelligence artificielle, elle est interdite en dessous de 13 ans.
C'est vrai que ces IA génératives, on ne le sait pas assez, mais leurs conditions d'utilisation prévoient qu'elles sont interdites avant 13 ans, sauf que dans notre parcours utilisateur, on ne le sait pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement banalisé que des enfants assez jeunes accèdent à ces outils et commencent à l'utiliser pour leurs devoirs et de manière un peu plus inquiétante, comme des conseillers sur un certain nombre de sujets, et viennent un peu prendre parfois la place de parents dans la disponibilité que peuvent avoir ces IA et le fait aussi de ne pas juger la parole des enfants et des jeunes.
Comment vous agissez là-dessus ? Alors c'est avec les parents, c'est en manipulant
Nous, on a fait le choix très tôt de faire des outils. D'abord, des outils pour expliquer aux jeunes ce que sont vraiment ces IA, où sont les IA dans leur vie, comment bien les utiliser, comment faire des alliés, parce que de toute façon, ils les utilisent. Et c'est vrai de faire aussi des outils pour les parents, pour qu'ils comprennent mieux ce que sont ces IA et quelle place ils peuvent prendre, parce que c'est essentiel. Enfin, ce sujet d'éducation à l'IA et la place que doivent prendre les parents, elle est importante. Sinon, il ne faudrait pas que notre absence de disponibilité, elle serve à des IA dont on ne sait pas ce qu'elles vont forcément faire des données de nos enfants.
Axelle Dessin, directrice du Programme national d'éducation au numérique Internet sans crainte. Pour trouver tous les conseils, les guides pour paramétrer les smartphones ou échanger en famille sur l'IA et les réseaux, direction le site internetsanscrainte.fr. Avis aux usagers des transports en commun lyonnais, la ligne C du métro sera entièrement à l'arrêt du 3 au 16 août inclus. Les TCL profitent de la baisse de fréquentation estivale pour refaire une santé à cette ligne historique inaugurée en 1974. Et pour cause, unique au monde avec son système de crémaillère, notre mythique ficelle a besoin d'être chouchoutée au programme de ces deux semaines de chantier. Le remplacement complet des appareils de bois et des traverses en bois à la station Hénon, mais aussi le dégraissage de la crémaillère ou encore le contrôle des rails sur tout le parcours. Pendant la durée des travaux, pas de panique, pour rejoindre la Croix-Rousse ou Caluire, il faudra vous reporter sur la ligne de bus C13 entre Hôtel de Ville et son terminus Montessuy. Avis aux supporters d'OL Lyon, vos joueuses préférées vous donnent rendez-vous le vendredi 31 juillet prochain. Ce sera le tout premier entraînement ouvert au public de la saison 2026-2027. Coup d'envoi de la séance prévue à 10h sur les terrains du Groupama OL Training Center. Pour les fans, c'est l'occasion idéale de partager un moment privilégié avec le groupe, mais mais aussi de découvrir la tête des nouvelles recrues du club avant la reprise de la compétition. Attention, ne tardez pas, la billetterie est déjà ouverte et l'inscription est obligatoire pour accéder au complexe. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.